On va donc passer maintenant, on va avancer vers le dernier maximum glaciaire. Hein. Alors, il n'y a pas de glaciaire au Maroc, mais il y a quand même des changements environnementaux. Et donc, on s'approche de la fin du Pléistocène avec des assemblages qu'on appelle de ibéro-maurusiens. Et ces assemblages ibéro-maurusiens, qui sont assez fréquemment trouvés au Maghreb, font suite, d'ailleurs pas directement en général, à cet atérien dont on vient de parler.
Merci beaucoup, Jean-Jacques. Et je tiens aussi à te remercier de m'avoir invité à parler de l'ibéro-maurusien, du Maghreb, mais du Maroc en particulier. Je remercie aussi Madame Véronique Gudin d'avoir arrangé en fait le voyage, l'hébergement, tout est impeccable, on est bien vraiment reçu ici, etc. Et je remercie bien sûr notre secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication qui nous a honoré vraiment de sa présence depuis ce matin jusqu'à maintenant pour écouter un peu ce que font ses compatriotes au Maroc, et ça c'est une fierté personnelle. Donc l'atérien. Enfin, cette histoire de l'atérien, donc c'est bien terminé, mais celle en fait de l'ibéro-maurusien va mal commencer. Il va mal commencer pourquoi ? Parce que d'abord par le terme ibéro-maurusien, donc vous pouvez le constater, il est composé de deux termes. Ibéro qui fait référence en fait allusion à l'Ibérie, maurusien il fait référence en fait allusion à une partie de l'Afrique du Nord, surtout la Mauritanie tangitane, c'est-à-dire occupée à peu près par le Maroc actuel et des parties de l'Algérie. Pourquoi ce terme un peu, je dirais, composite ? Ce terme composite, elle trouve son origine dans l'histoire de la préhistoire par un préhistorien français qui s'appelle Palary et qui travaillait au Maroc et en Espagne. Et il a trouvé en fait des outils, c'est-à-dire cette industrie lithique, si vous voulez, des outils taillés, microlithiques, sous forme de petites lamelles, enfin des lamelles. Et donc, il a conclu rapidement en quoi il s'agit peut-être de la même culture, de la même civilisation sur les deux rives de la Méditerranée. Et comme vous pouvez le constater, donc, la paléogéographie du début du XXe siècle n'a pas beaucoup changé. Vous pouvez le voir donc, ici, donc, c'est un peu. En fait, le Maroc, vu de l'Espagne, ici de la baie de Cadiz, et cette image qui est maintenant un peu classique d'échanges, etc., de mouvements de population, il était beaucoup question ce jour. Et donc, ce terme, en fait, ibéro-maurusien, des années plus tard, donc on a compris que ce n'en est rien, avec surtout le progrès réalisé dans les datations, techniques de datation surtout, du radiocarbone et d'autres méthodes. Donc, ce sont vraiment deux mondes complètement séparés, indépendants, même s'ils sont séparés uniquement par 12 ou 14 kilomètres, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar qui sépare l'Afrique du Nord de Sud Ibérique. La chose va se compliquer encore davantage pour ce ibéro-maurusien. On va garder le terme jusqu'à un certain temps. On va le garder parce que, pour des raisons pratiques, parce que ça y est, en fait, elle devient un peu familier, elle devient un peu courant dans la bibliographie, dans la littérature scientifique, et donc on l'a gardé. Et là, en fait, comme j'ai dit, l'histoire va se compliquer, surtout pour cette transition. C'est-à-dire donc que ce matin, on a vraiment beaucoup entendu, beaucoup appris de Jebel Iroud, de ce qui a vraiment bouleversé nos connaissances en matière du peuplement humain en Afrique du Nord et ailleurs aussi. Et en fait, là, donc mes deux collègues, là, Jaoui et Nespoulé, ils ont parlé en fait de cette partie-là, cette zone, c'est-à-dire de l'Atérien vers à peu près dans cette région-là, vers entre 140 à 100 000 ans. Et cette transition, c'est-à-dire entre cet atérien et l'ibéro-maurusien, c'est là où ça devient un peu compliqué pour cette histoire. Donc, je vais essayer un peu de la résumer, mais rapidement. Il serait beaucoup plus question ici de culture plutôt que de biologie. Donc, je ne vais pas trop vous parler des restes humains. On est toujours dans le mot sapiens, donc ça n'a pas changé depuis les 300 000 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme on peut le voir ici, on passe en fait à des formes plutôt, je dirais, archaïques, à des formes plus ou moins très, très modernes. Et surtout, comme j'ai dit, avec cette transition ici, qui est vraiment très importante, parce qu'à un certain moment, on avait cru qu'il y avait un hiatus, c'est-à-dire un gap, un vide, entre la fin de l'Atérien et le début de l'Ibéro-Maurusien. C'est ce qu'on avait appelé classiquement l'hiatus chronologique. En fait, il n'en est rien. On va voir que les données récentes, en fait, au Maghreb, particulièrement au Maroc et en Algérie, en fait, ils vont à l'encontre de ce constat. Si on regarde, en fait, cette distribution des sites du Paléolithique supérieur, si vous voulez, ou bien du Ibéro-Maurusien au Later Stone Age, LSA, donc là, par opposition, bien sûr, au MSA, puis en fait, cette complexe moustéro-atérien. Et donc, en fait, ce qu'on a, vous pouvez le constater, et en fait, cette carte qui est simplifiée des principaux sites ibéro-maurusiens au Maghreb. Et ce qui est intéressant, elle est un peu trompeuse quand même, cette carte, parce que la plupart, en fait, contrairement à l'atérien, la plupart des sites ibéro-maurusiens sont situés sur la partie littorale. Le libéro-maurusien, il a beaucoup adoré, il a beaucoup aimé en fait le littoral pour des raisons que je vais vous expliquer par la suite. Et donc, dans cette panoplie de sites entre le Maroc et l'Algérie et des parties de la Tunisie, quand même libéro-maurusien, il faut le dire, il est extrêmement rare en Tunisie. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, on va le voir après avec les dates, pourquoi cette rareté. Et donc, en fait, si, donc là, on va parler surtout des données qui nous proviennent de cette grotte-là, Tafourat, qui est au nord-est, ou bien à la partie orientale du Maroc, et un autre site qui est à Marhat, dont ma collègue Latif Assari va parler plus tard. Donc, le site de Tafourat, il se trouve, vous pouvez le voir, cette voiture-là vous fera l'échelle. Donc, en fait, même si vous avez l'impression qu'on est dans un massif, dans une montagne, ce qui est vrai d'ailleurs, mais l'altitude n'est pas importante, elle est seulement 720 mètres. Donc, elle est dans la région, comme je dis, de l'oriental marocain. C'est une grande grotte et qui peut être comparée à ce que nous a montré Graham Barker tout à l'heure. Donc, ce site, elle a été fouillé depuis les années 50 par Jean Roche et l'étude des restes humains a été réalisée par Ferenbach, aidé aussi par Jean Dastug et Poitra Targola. Donc, c'était en fait dans des monographies qui étaient publiées en 1963. Ce qu'il faut peut-être retenir pour cet ibéro-maurusien de Tafourat, de la grotte des pigeons à Tafourat, c'est qu'il y avait 28 sépultures et à peu près 180 individus, ce qui est quand même énorme. C'est pour ça qu'il vraiment il mérite le nom de nécropole, même si maintenant on comprend qu'il y en a en fait peut-être pas seulement deux nécropoles, mais peut-être trois. Et donc la grotte, là c'est un plan général de la grotte, et donc la grotte elle est immense, il faut le dire, en fait c'est 30 mètres ou 40 mètres de profondeur avec une quinzaine de mètres de hauteur à partir de la surface actuelle du sol. Et là, en fait, on l'a subdivisé pour mieux la comprendre, mieux comprendre la stratigraphie de ce site gigantesque. Ce qu'on l'a subdivisé en fait en secteurs, ce que vous voyez là comme 1, 2, 3, etc., ce sont des secteurs. Et c'est-à-dire, ça va nous aider dans la stratigraphie à trouver ce qu'on appelle des marqueurs, horizon marqueurs, si vous voulez, horizon markers. Et ça nous a beaucoup aidé en fait à faire des liens, d'accord, entre les secteurs et comprendre, et mieux comprendre la stratigraphie des sites. Et ça, c'est grâce, en fait, aux travaux de Jean Roche qui nous a laissé quand même plusieurs témoins dans la grotte. Donc, c'est un travail qu'on peut peut-être continuer, je ne sais pas, dans 30 ans, 40 ans, je ne sais pas si je serai là, mais certainement, l'un de mes étudiants va poursuivre le travail, ça, c'est sûr. Et donc, en fait, ce qu'on avait fait, donc le premier, en fait, effort, ça nous a pris quand même une décennie à mieux comprendre cet ibéro-maurusien. Pas seulement, là, je vais me limiter à cet ibéro-maurusien. Et donc là, c'est, si vous voulez, l'équivalent à peu près du Paléolithique supérieur européen, ou une partie au moins. Et donc, ce qu'on a fait, donc, on a déployé énormément d'efforts, que ce soit scientifique en termes de labo, en termes aussi de personnes ressources, que ce soit marocaines ou étrangères, en particulier d'Oxford. Et donc là, en fait, ce qu'on a fait, on a multiplié les dates. Et là, c'est vraiment... Ça, vous posez la question à n'importe quel préhistorien ou archéologue, elle va vous dire qu'il fouille le meilleur gisement au monde. Et donc là, je ne suis pas vraiment très, je dirais, je suis fier de ce site, je suis vraiment très honoré de travailler dans un site prestigieux, mais je peux le dire sans exagération, c'est l'un des sites qu'on connaît vraiment presque au centimètre près. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis plein d'efforts dans la compréhension, en fait, de cette stratigraphie, surtout la calée dans le temps, comme vous pouvez le voir, depuis au moins 35 000 ans, d'accord, jusqu'à au moins 10 000 ans, voire 9 000 ans. Et donc, la grotte, en fait, simplement, je ne vais pas vous parler en détail de cette stratigraphie, mais on peut la subdiviser en deux. C'est Yellow Series, c'est-à-dire ces séries jaunes, et les Gray Series, ce sont ces séries, en fait, grises. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment énorme, c'est quelque chose comme 5 à 6 mètres, en fait, de sédiments, mais qui s'est mis en place rapidement. Il y a seulement ça a pris en fait un laps de temps de 2000 ans. Donc c'était vraiment rapide. Donc ça va vous donner en fait une idée sur en fait, je dirais la poussée démographique ou bien l'aspect démographique en fait qui était dans la grotte. Et donc ce qui appuie à peu près la présence, comme j'ai dit, de ces 180 individus dans la grotte, qui ont été mises au jour, bien sûr, au cours des anciennes fouilles. Et nous, on a trouvé encore une vingtaine de sépultures. Je vais peut-être en parler aussi. Donc, côté toujours, on dirait chronologie, donc on s'est aussi intéressé beaucoup à la base, en fait, de ce Tébéro-Maurusien. Et là, comme j'ai dit, je ne peux rien refuser à Jean-Jacques Hublin. Et donc, en fait, je publie ici, je montre une date qui n'est pas encore publiée. Donc, c'est la première fois qu'on la montre ici, en fait, de la base, en fait, qui a été réalisée à Oxford. Et on voit, en fait, sur du charbon du pain. Donc, il y a entre 23 000 et 23 500. Donc, c'est en fait, ça confirme l'ancienneté, c'est-à-dire que cet hiatus, ce gap entre la fin de l'Atérien et le début de cet Ibéro-Maurusien, maintenant, grâce à ces travaux, que ce soit au Maroc, à Tafoural, Latifa va parler aussi de Tamarhat, qui est en Algérie, donc, se rétrécit considérablement. Et donc, on arrive, en fait, cet hiatus, peut-être, il existe. Peut-être il n'existe pas dans les grottes, il existe peut-être dans notre approche, dans notre manière d'approcher peut-être les gisements. Et donc, pour toujours dans cette chronologie, la situation actuelle, elle est la suivante. Bon, j'ai mis en fait un point d'interrogation, je peux l'enlever, je pense, pour 10 ans, et ça ne se passera rien en fait dans cette image. Peut-être qu'on ajoutera quelques dates ici, mais je ne pense pas que l'image en fait va beaucoup changer. Et comme vous pouvez le constater, en fait, classiquement, on disait que cet Ibéro-Maurusien avait un sens migratoire, c'est-à-dire mouvement, d'accord, de l'est vers l'ouest. Or, avec les datations dont on dispose maintenant, on voit que le mouvement, il est en fait à l'envers, c'est-à-dire dans le sens inverse. C'est beaucoup plus, en fait, les sites qui sont dans la partie occidentale de l'Afrique de l'Afrique du Nord-Ouest ou bien au Maghreb. Donc, ce sont les sites les plus anciens se trouvent dans cette partie et non pas dans cette partie. Vous pouvez voir le grand gap ici, c'est la Tunisie. Et là, peut-être avec Latifa, elle peut peut-être expliquer pourquoi on a vraiment ce vide-là. Surtout, c'est là où il y aurait, à quelques milliers après, le Capcien qui va se développer d'une manière aussi extraordinaire. Donc ceci pour l'état général de la chronologie, de l'âge, de la terminologie, mais qu'en est-il de l'origine de cet Ibéro-Maurusien ? Donc on avait compris qu'il n'a rien à voir en fait avec l'Ibérie, ce sont deux mondes complètement différents, mais là, très important, là c'est l'image un peu de ce qu'on a comme matériel génétique, comme ADN, fait en Afrique. Donc là, c'est Jebel Irhoud, vous pouvez le voir, c'est à 300 000 ans. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec toute cette histoire extraordinaire, exceptionnelle, de peuplement humain, de fossiles, etc., en Afrique, l'histoire génétique, il est vraiment presque réduite à néant. On connaît que les derniers 15 000 ans. Donc on est vraiment en état très, très, je dirais, embryonnaire en ce qui concerne, en fait, cette histoire génétique et donc des origines de cet Ibéro-Maurusien. La situation va changer toujours avec cette grotte de Tafourat au Maroc, avec un article qui est apparu presque il y a un an maintenant dans la revue Science, et Jean-Jacques et certains de son laboratoire sont aussi co-auteurs de cet article. Et donc on a pu obtenir, à partir de l'os pétreux, c'est-à-dire de l'oreille interne de certains squelettes, on a pu obtenir en fait de l'ADN fossile. Et cet ADN fossile a été analysé grâce en fait au laboratoire de Johannes Krause, qui est à Iéna, qui dépend du Max Planck, de l'Institut Max Planck. Et donc on a trouvé en fait, chose intéressante, c'est qu'on s'attendait en fait à justement dire que cet Ibéro-Maurésien peut-être avait des relations avec l'Europe. Il n'en est rien. Donc vous pouvez le voir, ces populations ibéro-maurésiennes d'il y a 15 000 ans partagent en fait leur matériel ou patrimoine, si vous voulez, génétique avec le natoufien, c'est-à-dire cette partie du Levant, et donc de 63,5, 64%, aux environs de 64%. Et chose encore plus intéressante, ils partagent aussi avec les populations de l'actuelle ou grande partie de l'Afrique de l'Ouest actuelle de 37 ou 36,5%. Ça, c'est deuxième, je dirais, résultat spectaculaire, c'est que les relations, c'est-à-dire les échanges génétiques, si vous voulez, à cette époque-là, avec le Sud européen, se sont réduits à néant à travers les deux, je dirais, les deux détroits possible, à savoir le détroit de Gibraltar et le détroit de Sicile. C'est-à-dire que ce sont effectivement, la génétique a appuyé que c'était vraiment deux mondes complètement différents et qu'on a affaire à des populations, à une aire géographique qui était très ouverte en fait sur des échanges. Là, je ne vais pas vous mettre, je suis désolé, je ne vais pas mettre d'une flèche soit dans un sens, soit dans l'autre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, c'était une aire, je dirais, un espace géographique qui était très ouvert à des échanges génétiques, bien sûr, à des mouvements de population, que ce soit ouest, est, est, ouest, ou bien sud-nord, nord-sud. Et pas seulement, chose intéressante, c'est que, bon, j'aime bien Johnny Hallyday, je lui ai emprunté ça, donc on a tous quelque chose en nous de Tennessee, j'ai mis, on a tous quelque chose en nous de néandertalien. Et ce qui est vrai d'ailleurs, dans cette population de les Ibéro-Maurésiens, on a trouvé un peu en fait de U6A que j'ai mis ici en cercle. Et donc et là, c'est, bon, on peut peut-être parler de ça dans la discussion. Et donc on a... Donc Jean-Jacques a parlé de ça, donc on a une petite, je dirais, portion de cette présence néandertalienne. Chose qui est très intéressante, ce qu'il faut retenir en fait de cette présence, je dirais, de patrimoine ou bien d'un héritage génétique néandertalien dans cette population nord-africaine ou africaine tout court, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait des out of Africa, c'est-à-dire des sorties d'Afrique, mais il y avait aussi des retours d'Afrique, c'est-à-dire des back to Africa. Et on a, on détient là l'une des preuves de ce retour, en fait, de ces populations, je dirais, censées être eurasiatiques et qui ont fait leur entrée, d'accord, dans le continent africain, surtout dans cette région, certainement pas à travers les détroits de Gibraltar, mais certainement par cette voie terrestre, comme j'ai dit, parce que déjà la génétique le montre, ils partagent quelque chose qui dépasse les 60% de leur matériel génétique. Toujours dans cette grotte, donc, on a vu un peu le secteur 10 et le secteur 8. Donc le secteur 9, ce secteur 9 qui est enregistré, c'est là où on enregistre en fait cette transition de l'ibéro-maurésien avec l'atérien et avec ce qui va suivre par la suite. Et donc là, c'est un log simplifié de ce sondage, en fait, et qu'on doit compléter. Et là, c'est juste à titre anecdotique, Graham l'a parlé tout à l'heure, en fait, à Hawa Fateh, de cette consommation qui n'est pas seulement carnée à Hawa Fateh en Libye, et on a aussi cette consommation de plantes. D'accord, là, c'est des lentilles à l'atérien aussi. C'est parmi peut-être les plus anciennes au monde. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a presque ici un hiatus qui est peut-être dû à un effondrement. Mais chose qui est très intéressante, c'est beaucoup plus, en fait, cette zone qui est occupée par une culture, je dirais, de transition, et qui nous rappelle un peu ce qui se trouve, en fait, je ne vais pas l'appeler Daban ou Dabian, mais qui En fait, c'est quelque chose, c'est une culture, c'est une technologie, si vous voulez, des industries, des outils qui ont été fabriqués par une population. On ne sait pas si c'est la même population, c'est-à-dire la fin de l'Atarien, ou bien c'est une nouvelle arrivée, un nouveau groupe en Afrique du Nord, et qui ont commencé en fait à faire et à fabriquer des outils qui sont complètement, complètement différents de ce qu'on connaît, soit ici, soit après. Et donc, cette culture pour la... Bon, si mon collègue Nick Barton d'Oxford était là, il aurait appelé ça taforaltien. Moi, je préfère le terme, en fait, beaucoup plus neutre, et dire c'est une culture de transition. Toujours est-il très important de mentionner que vers cette période, entre 27 000 ans et 24 000 ans, il y a quelque chose, en fait, qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a, en fait, un grand shift, un grand changement, en fait, dans les cultures. C'est très bas, probablement, c'est quelque chose qui est dû soit un changement climatique, chose que je n'appuie pas beaucoup, malheureusement, je peux dire ce que vous voulez, parce qu'en fait, je n'ai pas beaucoup de preuves, hein, soit en fait, peut-être à une nouvelle arrivée, je dirais, d'un groupe, ce qui est peut-être plus probable. Chose qui est intéressante, c'est que c'est ce qu'on peut appeler dans cette phase de transition, on a ces pics, ils dépassent en fait en longueur 10 cm et qu'on laisse aussi un amincissement basilaire. Cet amincissement basilaire, en fait, elle a servi comme à l'Atarien, c'est-à-dire à l'emmanchement, c'est-à-dire à fixer ces objets sur un autre support. Donc ce qu'on a ici, c'est uniquement la partie agissante d'un outil qui est beaucoup plus complexe. Donc ce qu'on a, c'est uniquement ce qui a résisté au phénomène de la fossilisation, d'accord, dans les couches, mais tout ce qui est, je dirais, en matière périssable, certainement, il a disparu. C'est Ataforal, ce n'est pas vraiment un cas isolé, même si on n'a pas vraiment une date à Rarkahal. Donc ici, dans la région de Sebta, au nord du Maroc, on a une grotte qui s'appelle Rarkahal, ou la grotte noire, et on a trouvé à peu près la même technologie. Ailleurs aussi, au Maghreb, donc... Graham Bach a parlé aussi de ce Dabien, donc je ne vais pas vous expliquer encore. Toute la stratigraphie, Graham l'a très bien fait. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, en fait, dans le Dabien, que ce soit à la base ou bien à la fin, on a en fait ce genre de pic. C'est vrai qu'il ne se ressemble pas exactement à ce qu'on a à Taforalt, mais je dirais, l'idée, elle est là, et la forme aussi. Fonction probable de ces pics, certainement, ils étaient utilisés en fait pour l'abattage des arbres. Donc, c'est quelque chose, ce sont des fonctions nouvelles et qui ont nécessité probablement l'invention, d'accord, la fabrication de nouveaux outils sous forme, comme je dis, soit c'est pour abattre des arbres, des troncs d'arbres, etc., soit pour en fait l'extraction des tubercules. Donc, ce sont de nouvelles pratiques, je dirais, socio-économiques qui vont se mettre en place et qui vont se développer davantage à partir de 24 000 ans jusqu'à l'Holocène, jusqu'à la période du Capcien et du Néolithique ailleurs. Donc, toujours dans cette grotte, voilà, le secteur est 10, et donc on a trouvé de nouveaux restes humains. Mais cette fois-ci, grâce, je dirais, à l'équipe, on a bénéficié de beaucoup de choses, beaucoup de moyens, bien sûr, mis à notre disposition par le ministère de la Culture et de la Communication, mais aussi par nos partenaires étrangers, y compris, en fait, le Max Planck, et aussi, en partie, le Max Planck pour les datations TL, et aussi l'Université d'Oxford et Natural History Museum à Londres. Et donc, on a trouvé, mais là, contrairement à ce qu'avait fait, en fait, Jean Roche, nous, ce qu'on a trouvé, en fait, c'est des restes humains, mais on les a étudiés dans leur contexte. Comme vous pouvez le voir, donc là, on a une idée beaucoup plus précise, en fait, sur ces Ibéro-Maurusiens, sur leur rite funéraire, d'accord, leur tradition, si vous voulez. Comme vous pouvez le voir, donc, en fait, ils inhument avec ce que vous voyez là, ce ne sont pas des restes humains. Ce sont, en fait, des massacres, des cornes, si vous voulez, de mouflons. Donc, c'est en fait, ces Ibéro-Maurusiens avaient en fait une relation, je dirais, très particulière avec cet animal, qui dépasse certainement la relation entre gibier, en fait, entre chasseur et gibier, ou bien proie. Ils ont eu aussi une relation très particulière avec les enfants. Et il faut mentionner une chose qui est très importante, c'est que seules les sépultures des enfants n'ont pas été perturbées. Celles des adultes, on pouvait, parce qu'avec 180, et avec ce qu'on a trouvé, ça veut dire c'est beaucoup plus que ça, le nombre est beaucoup plus important que ça, et leur arrive en fait, pour mettre en fait en place une autre sépulture, de en fait se débarrasser un peu, de pousser un peu, de repousser un peu les autres ossements des autres sépultures, sans ces sépultures, et donc ça a permis en fait de créer des perturbations, à l'exception des sépultures des enfants. Et pour les sépultures des enfants, donc là, bon, j'espère que personne ne va le faire dans le site, ils les ont marqués. Et donc là, c'était pour nous facile, c'était même pas... Après la découverte de la première sépulture d'enfants, le reste était facile. Donc en fait, sous chaque bloc de grès, de calcaire, si vous voulez, on l'appelait calcaire bleu même s'il ne l'est pas, d'accord, le blue stones, sous chaque bloc de cette nature, on trouve une sépulture d'enfants. Et donc c'est comme si en fait, ils marquaient dans la grotte en fait, les emplacements de ces enfants, comme si pour dire au reste en fait, du groupe, ne perturbez pas cette zone. Et effectivement, pas une seule sépulture d'enfant n'a été perturbée. Autre caractéristique de ces ibéromorosiens, c'est qu'ils ont pratiqué en fait, ce qu'on appelle l'abulsion dentaire. Et ça, on ne le sait pas. On ne sait pas pourquoi en fait, ils ont pratiqué ça. Si on a par exemple le maxillaire, donc c'est facile en fait, à la reconnaître, à l'identifier. Mais si on a la mandibule, c'est aussi facile. C'est encore plus facile avec la mandibule, parce que vous voyez en fait cette morphologie, c'est-à-dire il y a cette remontée en fait des dents, d'accord, pour remplir un peu ce vide-là. Et donc rien qu'à partir par exemple de la mandibule, on peut déjà comprendre est-ce qu'on est en face en fait d'un ibéromorusien ou pas. Il faut dire aussi que cette pratique a perduré quand même au néolithique. J'ai encore du temps ou bien? Et ça aussi, bon, c'était pas notre équipe qui a découvert en fait ce crâne trépané qui se trouve d'ailleurs ici à Paris au Musée de l'Homme, à l'Institut de paléontologie humaine, pardon. Et donc, en fait, c'est un crâne trépané, c'est-à-dire, bon, on l'appelle dans les médias, c'est la plus ancienne opération chirurgicale au monde. Et comme vous pouvez le voir, pourquoi? Parce qu'en fait, les parois, d'accord, sont faites d'os néoformé, c'est-à-dire que après avoir fait en fait créer cette ouverture dans le crâne, donc le processus de cicatrisation de l'os a commencé en fait à se mettre en place, c'est-à-dire que le patient entre guillemets en fait a survécu, d'accord, à cette opération. La nouveauté en fait pour nous, c'était pas vraiment de dire si c'était une trépanation ou pas, c'était beaucoup plus de préciser en fait l'âge de cette trépanation, parce qu'avec les travaux de Jean Roche, la date était de 11 000, 12 000, alors qu'avec nos recherches maintenant, on a compris en fait l'emplacement, on a précisé l'emplacement de la découverte de ce crâne trépané et dont l'âge maintenant remonte à de 13 000 à 15 000 ans, ce qui en fait en fait la trépanation la plus ancienne au monde. Donc ils n'étaient pas seulement habiles en fait à créer des perforations dans les crânes de leurs camarades, mais ils étaient aussi très très habiles en fait à fabriquer des outils en fait. C'était capable, ça c'est connu en fait en technologie lithique, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent aux manières, aux méthodes et techniques de fabrication des outils, c'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire celui qui peut faire vraiment des choses extrêmement petites comme ça, extrêmement pointues, qui répondent certainement à des besoins, des fonctions qui sont précise dans les groupes. Donc on n'est plus vraiment, comme l'a dit Shannon ce matin, dans cette catégorie d'objets sous forme de points, de racloirs, de différentes natures, de pièces pédonculées, etc. Mais on est en fait dans la logique d'autres en fait formes et surtout la logique d'autres manières de gérer en fait les blocs de matières premières lithiques, c'est-à-dire si j'ose dire, en fait, la gestion de ces écluses, c'est-à-dire que la première fois, on est capable, si je veux utiliser un terme moderne, c'est la première fois peut-être qu'ils ont commencé en fait à voir les choses d'une manière trois dimensions, parce que c'est vraiment une conception volumétrique des écluses. Je ne vais pas m'attarder en fait sur les régimes alimentaires carnés, parce que ça, on le sait, en fait, on sait qu'ils raffolaient en fait du mouflon en manchette et surtout aussi des escargots, mais je vais m'attarder un petit peu sur un autre type de consommation qui n'est pas carné, mais qui est basé en fait sur la consommation des plantes. Comme on peut le voir, donc ces plantes, donc Graham Barker, il a expliqué comment on fait, c'est par flottation, etc. Et donc nous étions vraiment très contents d'avoir avec nous notre collègue espagnol Jacob Morales, qui nous a beaucoup aidé en fait, à développer cet aspect à Tafora ailleurs aussi. Et donc comme vous pouvez le voir, alpha en fait, c'est Stipatenacissima. Et on peut le voir, en fait, là, cette partie-là, basilaire, donc on la trouve, en fait, carbonisée et qui a, certes, bon, on ne peut pas consommer ça, sauf si c'est pour, en fait, la fabrication de la vannerie. Et ça, effectivement, comment on peut expliquer, en fait, la récolte de ces milliers, je dirais, d'escargots, d'accord, et des glanges, on va le voir, de chênes, de fruits de chênes, parce qu'on ne parle vraiment pas de centaines, mais c'est de milliers. Il faut vraiment, des supports, d'accord, de transport et de stockage à partir de leur emplacement vers la grotte. Ils étaient aussi de grands consommateurs de ces fruits de chêne. Là, c'est une image en fait actuelle. Et là, c'est des fragments en fait archéologiques carbonisés et surtout en fait de cette partie et de cette partie-là. Donc en fait, ils les ont introduits en fait dans le gisement et ils les ont sécuits. On ne sait pas comment. Et ils les ont grandement en fait consommés. Là, je vous montre un peu en fait l'apport nutritif de la consommation des plantes, c'est-à-dire si en fait la viande elle pouvait en fait apporter, je dirais, un apport en protéines très très important, les plantes aussi et surtout les glandes du chêne, d'accord, certaines légumineuses et surtout le sureau, donc surtout ce qui est carbohydrate ou bien si vous voulez sucre ou glucides. Et cette grande consommation, en fait, de fruits qui sont riches en carbohydrates, hein, n'était pas sans conséquence sur ces populations, parce que ça leur a créé, en fait, des problèmes dans leur dentition, comme on peut le voir ici. L'avulsion, donc, c'est quelque chose qui est pratique, je dirais, qui est beaucoup plus culturel, c'est-à-dire rituel, si vous voulez. Mais il y avait, en fait, là aussi, le mauvais alignement, peut-être. L'usure importante, ça, c'est important, c'est-à-dire que c'est en relation, pas seulement avec la consommation, je dirais, de la viande, mais beaucoup plus avec la consommation de certains fruits, surtout s'ils sont crus. Mais c'est surtout, je m'attardais là, sur la carie. La carie, en fait, c'est une maladie et qui est causée, d'accord, par une consommation, en fait, d'aliments, d'une alimentation riche en carbohydrates. Et donc, pour que cette carie, en fait, se mette en place, avec en fait des glands, je dirais, qui sont crus, ça peut pas vous causer en fait cette carie, parce que ça c'est un phénomène que les populations du néolithique, bon Latifa certainement va parler de ça, ces populations des néolithiques en fait qui vont le connaître avec en fait des aliments qui sont riches comme le blé, les céréales, avec le développement de la céréaliculture, alors que là en fait cette carie là qui est une maladie bien sûr, en fait va se développer à partir de la grande consommation d'aliments riches en carbohydrates, je termine, carbohydrates, et donc associés, en fait, et il faut que ça soit un peu plastique. Pourquoi plastique? C'est-à-dire qu'elle est cuite d'une manière ou d'une autre, d'accord? Et ça va se fixer, en fait, dans les dents, il va rester longtemps. Et donc, puisqu'il va rester longtemps, donc ça va associer, en fait, à l'activité, je dirais, bactérienne à l'intérieur de la bouche. Donc, ça va créer, en fait, ça va déclencher ce processus. C'est comme si on le fait maintenant, on arrête avec le brossage des dents, on arrête ce processus, on le ralentit un petit peu, mais on ne l'arrête pas du tout. Donc, en fait, lorsqu'on consomme quelque chose qui est riche en carbohydrates, donc ça en fait, ça y est, donc le processus il est lancé, on ne l'arrête pas, on le ralentit peut-être, mais on ne l'arrête pas. Donc, en conclusion, et là, je vais peut-être faire vite, donc, avec cet Ibero-Maurusien, avec cet overview de l'Ibero-Maurusien, là, on va peut-être, vraiment, on assiste, en fait, à un changement de population, de société basée sur la prédation, sur la chasse, à des sociétés qui sont en fait dont l'économie serait basée sur le stockage et sur la production. Et donc on pouvait le voir, donc on l'a vu avec la diversification en fait de la consommation. Mais ces changements dans l'exploitation des ressources, on l'a vu dans la formation des amas coquillés, et la transmission des maladies, stockage. Pratiques funéraires qui sont extrêmement complexes et la croissance, d'accord, démographique, comme on l'a vu avec ce nombre considérable d'individus. Donc, les contacts transméditerranéens Ils ne sont pas appuyés par la génétique, donc contrairement à ce qui a été dit auparavant. À la différence d'un phénomène qui va se passer, c'est-à-dire le devenir de cet ibéro-maurisien, qu'on peut le voir ici, à un certain moment vers le Capcien, c'est-à-dire avec l'Holocène, vers 10 000 ans, 9 000 ans, donc l'Afrique du Nord ou le Maghreb va se scinder presque en deux pour, en fait, ces deux parties vont se développer d'une manière indépendante, c'est-à-dire côté ouest, presque tout le Maroc et des parties de l'Algérie vont connaître, en fait, le développement vers le néolithique de ces populations ibéro-maurisiennes, et cette partie-là, en fait, orientale du Maghreb, va connaître le développement d'une autre culture qui est le Capcien. Et je vous remercie.